Vous écoutez Déchiffrer le jargon financier, la deuxième saison du balado sur la littératie financière présentée par Gestion financière MD.
Aujourd'hui, David, nous allons parler d'inflation.
L'inflation, ça se définit habituellement comme étant la hausse de l'ensemble des prix. Elle va souvent s'exprimer en pourcentage sur une période donnée. On peut aussi voir l'inflation comme une perte de pouvoir d'achat. Tout le monde l'a remarqué, avec 1 $ aujourd'hui, on en a beaucoup moins que 10 ans. C'est ça l'inflation. Pour le mesurer, les analystes vont surveiller le prix d'un panier de biens et services différents. La mesure la plus couramment utilisée, c'est ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation ou l'IPC. En fait, c'est un panier qui représente le coût de la vie. Donc, les variations de l'IPC vont suivre l'évolution réelle du coût de la vie. Par exemple, si l'IPC augmente de 3 % sur un an, c'est que les prix sont 3 % plus élevés maintenant qu'ils l'étaient il y a un an. Donc, je perds du pouvoir d'achat. Pas bien ça, hein, quand même. T'en penses quoi, toi, Ariane?
Mais moi, je dirais que l'inflation a mauvaise presse. Quand on parle d'inflation, on pense souvent à l'hyperinflation, soit quand les prix augmentent vraiment très rapidement et que la situation est hors de contrôle. Donc, ça veut dire que l'argent a déjà perdu de la valeur quand vous la recevez dans vos poches. On a déjà vu ça, par exemple, en Hongrie après la Deuxième Guerre mondiale, ou s'il y a eu en Yougoslavie dans les années 90, au Zimbabwe dans les années 2000 et plus récemment au Venezuela dans les années 2010. Sauf qu'il faut se rappeler que l'inflation comme telle, c'est pas une mauvaise chose en soi. De manière générale, une inflation modérée, qui est stable et contrôlée, est signe d'une économie qui est saine. C'est pourquoi les banques centrales, comme la Banque du Canada ou la Réserve fédérale des États-Unis, vont cibler une inflation de 2 % à long terme. On estime que ce taux-là encourage les dépenses et les investissements qui vont entraîner la croissance économique. Maintenant, David, c'est quoi les causes de l'inflation?
Ça peut être pas mal n'importe quoi. Hein? Les prix sont dictés par l'offre et la demande. Tout ce qui cause un déséquilibre entre l'offre et la demande va avoir un effet sur le prix. Donc, événements géopolitiques, catastrophes naturelles, percées technologiques, nouvelles sur une entreprise ou même pandémie. Ça, en fait, c'est un exemple parfait. Les restrictions puis les confinements qui ont été liés à la pandémie ont eu un impact majeur sur l'offre. C'était plus difficile puis plus cher de produire des biens. Fait que d'un coup, tout est devenu plus compliqué. Conserver une main-d'œuvre en santé, s'approvisionner, produire puis même livrer des biens. Donc, on s'est retrouvé avec un goulot d'étranglement de l'offre, ce qui a fait, sans surprise, grimper les prix. Fait que ça, c'est un bon exemple en ce qui concerne l'offre.
Une demande plus élevée peut aussi faire grimper les prix. Pensez à n'importe quel engouement pour un bien de consommation, comme par exemple, pendant la pandémie, les matériaux de construction, les voitures d'occasion. Bref, à chaque fois que la demande a beaucoup excédé l'offre. Et quand la demande augmente, les prix, ils vont faire pareil. Et si c'est l'offre qui diminue, les prix vont monter aussi. Comme nous l'avons déjà dit, une inflation de 2 % à long terme est le signe d'une économie saine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la maintenir à ce niveau-là?
Bien, les banques centrales vont disposer de certaines stratégies pour influer sur l'inflation puis les prix en général. Une d'elles, c'est la réglementation des prix. C'est le fait de fixer un plafond ou un plancher sur certains biens. En fait, on a juste à penser au prix du lait ou de la bière au Québec, qui sont réglementés depuis des décennies. Par contre, en raison de la mondialisation croissante de l'économie, qui est de plus en plus interconnectée, c'est une stratégie qui devient de plus en plus difficile à mettre en application. En plus, elle a perdu la ferveur des économistes qui, pour la plupart, la jugent assez inefficace.
De nos jours, les banques centrales vont se servir davantage de la masse monétaire et des taux d'intérêt. Grosso modo, une réduction de la masse monétaire et une augmentation des taux d'intérêt vont ralentir la croissance en augmentant le coût des emprunts. On incite de cette façon-là les consommateurs et les entreprises à réduire leurs dépenses pour faire baisser les prix. À l'inverse, si on augmente la masse monétaire et on réduit les taux d'intérêt, ça va favoriser la croissance et les dépenses et éventuellement, ça va faire augmenter les prix. Pour obtenir les dernières nouvelles concernant l'inflation, ne manquez pas le blog L'Analyste MD.
Merci de votre attention. Si vous avez des questions sur les sujets abordés, n'hésitez surtout pas à communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD. Vous fassiez ou non affaire avec MD, on est là pour vous aider. Si vous avez aimé le balado, on vous invite à prendre connaissance des autres éléments de contenu sur la littératie financière sur md.ca. Vous allez y trouver des billets de blog, des vidéos et beaucoup d'autres choses.